à voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Élise Gruau rencontre Daniel Flomenbaum. Ce soir, nous aimons nos hommes comme nos mères. Daniel Flomenbaum, bonsoir.
Bonsoir.
Nous nous retrouvons ce soir chez vous pour ce quatrième entretien. Alors, vous êtes médecin, vous êtes gynécologue, formé dans la culture de la médecine allopathique. Mais très tôt, cela ne vous a pas suffi. Vous avez eu besoin de chercher plus loin. Vous avez fait une psychanalyse. Et face aux pathologies rencontrées par vos patientes, vous avez trouvé que les outils de vos différentes formations ne suffisaient pas. Vous avez alors découvert la médecine chinoise traditionnelle et vous êtes formé à l'acupuncture. Alors comment vous êtes-vous formé à l'acupuncture, Daniel Flomenbaum ?
Ah ben, ça a été une révélation. Ça a été une révélation. Je n'avais jamais entendu parler de médecine chinoise, ni d'homéopathie d'ailleurs, pendant toutes mes études de médecine, et ma famille ne connaissait pas ces médecines. Donc je découvre la médecine chinoise et je découvre que nous sommes responsables, que nous avons la responsabilité de la façon dont nous menons notre vie et dont nous sommes capables d'entretenir notre santé, un respect, une attention, une considération nous permet de vivre, alors c'est pas le plus longtemps possible. Les Chinois de la Chine ancienne disent « le temps qui nous est alloué par le ciel ». Hein? C'est comme si nous arrivions sur Terre avec quelque chose à faire de particulier pour chacun. Nous venons, nous avons, alors on l'appelle comme on veut, un destin à accomplir, une mission à réaliser, une vocation... Chacun de nous fait partie de ce réseau incroyable qui est la trame universelle et cosmologique de l'univers, et nous en faisons partie, et pour être, j'ai presque envie de dire, à la hauteur de la situation, nous avons à accomplir notre vie. Et c'est ça qui entretient la santé. C'est ça qui permet le souffle vital d'être dans une fluidité qui fait que on s'ouvre aux nouvelles possibilités. Je parlais de traces qui finissaient par faire des sillons et qui nous font avancer. Et puis on foule l'avancée et puis on recommence, hein, on ouvre des espaces antérieurs, nous leur permettons de les fouler, nous avançons et ainsi de suite jusqu'à la fin de notre vie.
Parlez-moi de l'acupuncture, de ce que ça a été pour vous concrètement quand vous vous êtes initié, vous êtes médecin gynécologue de l'allopathie, d'une tradition très occidentale. Comment vous êtes-vous formé à cette pratique ?
Alors, si vous voulez, moi, je n'ai pas commencé d'une façon très orthodoxe mon école d'acupuncture parce que moi, j'avais envie de comprendre comment ça fonctionnait. Qu'est-ce que c'était que ces histoires de méridiens, de flux, de ciel, de terre, puisque la cosmologie chinoise dit qu'on est situé entre le ciel et la terre, que nos racines du ciel sont notre tête et nos mains, et que nos racines de la terre sont nos pieds et notre sexe. Et que les énergies du ciel nous dégoulinent en permanence de haut en bas, et les énergies de la terre nous remontent en permanence de bas en haut, de notre naissance à notre mort. Donc, si vous voulez, moi en tant que gynécologue, Je me suis mis à toucher les pieds de mes clientes, ce que je ne faisais pas systématiquement en tant que gynécologue allopathe. Je les ai trouvés quand même très souvent froids, avec les difficultés sexuelles et une sexualité difficile à se vivre. Donc là, visiblement, il fallait travailler sur les racines de la terre. Là, je m'orientais d'emblée. Hein, dans cette dynamique, alors qu'est-ce que c'est que ces racines de la terre? Hein, c'est la terre, c'est notre place sur terre, c'est comment on a une légitimité d'exister, comment on est posé sur terre, comment on est suffisamment sécurisé pour tenir sur terre, pour avoir les pieds sur terre. Et ces racines de la terre sont sous l'obédience des reins. On dit qu'il faut avoir les reins solides. Vous savez, les reins en chinois sont doubles. Ce sont nos vrais reins qui éliminent l'urine. Et c'est aussi notre génitalité, avec ce dont je vous parlais, d'avoir une destinée à accomplir. Ce que j'ai envie de vous répondre d'une façon très simple, c'est que moi j'ai appris les points d'acupuncture vraiment... À la fin de mes études, j'étais pas obsédée de savoir piquer. Je pensais même jamais devenir acupuncteur. Je voulais comprendre.
Et donc, vous avez intégré l'acupuncture à votre pratique de soins des femmes,
oui,
en cabinet?
J'ai mis du temps et puis je me suis lancée.
Sur qui vous êtes-vous lancée pour la première fois à piquer?
Alors, je crois que vraiment le premier, ça a été mon conjoint. Ça a été mon cobaye qui était tout à fait enchanté de sentir les bienfaits de mes aiguilles. Alors peut-être que sans aiguilles, il y aurait eu des bienfaits quand même. J'étais prudente, j'avais déjà de l'expérience. Je ne faisais pas de recherche impossible avec mes aiguilles. Hein, je faisais... des points très basiques et j'apprenais, et j'avais des bons enseignants dans mon école et j'ai rencontré des sinologues formidables qui nous ont vraiment permis de comprendre la philosophie qui sous-tend toute cette médecine et la philosophie fondamentale de la médecine chinoise, c'est comment l'esprit est à l'origine du soin. Donc c'est notre état d'esprit. Vous savez comment on est, on a des lunettes noires et on voit en noir, on a des lunettes roses et on voit plus la vie en rose, on pense pas les mêmes choses. Et là on est dans un travail aussi de positionnement et de savoir, et pour savoir vivre sa sexualité, et pour parce que tout le monde a envie de réussir sa vie affective et sexuelle, hein. Personne ne décide de ne pas savoir la vivre et d'en être malheureux. Eh bien, là, il est important de reconnaître qu'il y a un processus, et que c'est le fait d'entamer ce processus, alors je dirais pas avec des lunettes roses, mais avec des lunettes qui voient la réalité, qui fait qu'on amorce de la détente, on amorce de la spontanéité, on apprend à s'exprimer, on apprend à parler, on accueille les sensations.
Et petit à petit, tous les apports que vous avez pu récolter de vos recherches, de votre soif de comprendre, comment avez-vous vu les résultats se manifester chez vos patientes sur des pathologies, mais aussi sur le témoignage qu'elles pouvaient apporter des progrès qu'elles ressentaient en elles?
Ben vous savez, déjà, elles revenaient me voir. Donc, j'ai une clientèle très fidèle à qui je prescrivais beaucoup de lectures. Elles étaient contentes de lire les livres que je conseillais. Et c'est venu au fil des temps. Mes clientes, alors quand elles ont appris que je faisais de l'acupuncture, il y en avait... Eh ben, il y en a plein, bien sûr, qui ne s'y sont pas du tout risquées, j'ai envie de dire. Et puis celles qui étaient au courant ou celles qui étaient curieuses et qui me faisaient confiance, ont démarré. Et si vous voulez, les résultats sont importants, parce que de permettre à notre énergie vitale de mieux circuler en nous fait toujours du bien. Hein, je veux dire, quand on passe un bon temps en forêt, quand on nage au bord de la mer, quand on marche dans la montagne, on fait circuler son énergie, ben on se sent mieux. Alors on a cette augmentation et cette régularisation de la circulation de l'énergie par cette pratique. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que je pouvais moi-même me renforcer énergétiquement en accueillant de l'énergie de l'extérieur à l'intérieur de moi pour être moins fatiguée, pour me sentir plus en forme. Et donc, moi, j'ai à cœur et j'ai eu à cœur d'apprendre ça à mes clientes. Donc, de leur permettre de se prendre en main pour vraiment se sentir mieux dans leur vie.
Danielle Flomenbaum, vous avez transmis toute cette expérience dans un livre, Femme désirée, femme désirante, qui a paru chez Payot en 2006. Et le bouche à oreille a fait de ce livre un véritable best-seller. C'est un livre que vous avez adressé aux femmes autant qu'aux hommes, mais quand même principalement aux femmes. Mais c'est un livre à travailler, à lire à deux aussi.
Et à trois, à dix.
Vous savez,
j'ai raconté fondamentalement, je dirais, ce qui m'avait permis de me comprendre.
Et au début de ce livre, après une introduction qui évoque votre parcours personnel, vous ouvrez avec un chapitre qui s'appelle « Les femmes aiment leurs hommes comme leurs mères ».
Nous aimons nos hommes comme nous aimons nos mères. Alors ça, c'est vraiment un scoop qui est incroyable et qui est vrai, qui me vient de Didier Dumas, parce que lui, c'était un théoricien. Lui, c'était...
Donc votre mari.
Voilà. Hein, lui était un théoricien. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le fait d'ouvrir son cœur à une personne aimée nous reconnecte automatiquement à notre premier objet d'amour, qu'on soit un homme ou une femme, qui est notre mère. Puisque c'est elle qui, à l'orée de la vie, ben d'abord c'est elle qui nous a donné corps. Si vous voulez, dès qu'on est dans une expression, dès que l'autre devient notre tout, obligatoirement, il y aura une référence maternelle, parce que nous avons été son tout quand nous étions dans son ventre. Donc ça déjà, c'est énorme. De se rendre compte de comment l'amour nous reconnecte automatiquement à notre premier objet d'amour. Alors, c'est notre premier objet d'amour, c'est notre mère, et le deuxième, c'est notre père. Et puis après, il y a les nounous, après, il y a tous ceux qui, notre entourage, tous ceux qui sont occupés de nous, tous ceux qu'on a aimés, qu'on a idéalisés. Alors maintenant, la liberté sexuelle qui est possible à l'heure actuelle, de nos temps, ça veut dire de pouvoir découvrir sa sexualité avant un engagement plus sérieux, impliquant un engagement qui se nomme, qui s'appelle le mariage, qui s'appelle n'importe quoi.
La vie commune.
Mais qui s'appelle un vrai engagement. Hein. L'autre est notre objet d'amour. Maintenant qu'il y a une liberté, la sexualité, la liberté sexuelle fait que les jeunes peuvent, ou pas, hein, mais il y en a quand même un certain nombre qui osent découvrir une sexualité qui fait qu'on découvre le plaisir et la jouissance dans l'échange sexuel. Et qu'est-ce qui va se passer vraiment très très souvent, c'est que l'engagement de cœur va automatiquement refaire famille et va automatiquement nous prolonger à l'avant de nos lignées, donc à l'avant de notre mère, de nos tantes, de nos grands-mères, et énergétiquement, pas du tout en pensée, énergétiquement nous rebrancher à ces femmes qui, elles, n'ont pas pu et n'ont pas su vivre leur sexualité. Ça veut dire qu'un engagement de cœur va très souvent faire, donc qui correspond au fait qu'on aime son homme, mais on l'aime avec le cœur, on est amoureuse, on est contente de l'avoir rencontré, on est content d'être dans le partage, on fait des projets, on est complice, il y a un compagnonnage, une fraternité, et quand même bien souvent, le désir sexuel va disparaître de cette constellation.
Vous voulez dire qu'il y a comme un reflux, une régression à ce moment de...
Eh bien, c'est un rebranchement, je dirais. Alors on peut l'appeler un reflux, pourquoi pas, je ne l'ai jamais appelé comme ça. Hein? Il se passe subrepticement, absolument à notre insu, et sans qu'on s'en rende compte, le fait que l'on aime son homme de cœur et d'esprit et qu'on on désire plus du tout son sexe. Ça n'est pas l'apanage seulement des femmes. De plus en plus que les langues se délient et que moi je m'ouvre aussi plus à la notion de sexualité masculine, je remarque qu'il y a un grand nombre d'hommes qui, amoureux de leur femme, heureux d'avoir rencontré la mère de leurs enfants, pour eux aussi, cette femme devenant mère se met à être assimilée à leur propre mère et le désir sexuel pour ces femmes va se volatiliser. Je pense que c'est moins fréquent, mais j'en entends parler de plus en plus. Ça veut dire que dès qu'on prend son amour pour sa mère, bien sûr qu'on n'a plus envie de coucher avec elle. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça, parce que la libido, cette énergie sexuelle, s'est volatilisée. On devient asexué, et alors d'un seul coup, on se met à rêver à un autre homme, à avoir envie d'un autre homme. Et comment ça se fait? Alors, est-ce qu'on n'aime plus celui qui est dans notre lit? On commence à une confusion incroyable, on ne sait plus où on en est. Et si vous voulez, il faut quand même se rendre compte que ce genre de situation, parce que d'abord moi je trouve que les hommes, très souvent, contrairement à ce qu'on dit, je les trouve aussi beaucoup plus tolérants que les femmes. Ils ont, comme disait Didier, ils ont eu des mères. Donc voilà, ils savent patienter, ils savent attendre, et ce genre de situation ne va pas empêcher de faire des enfants du tout, au contraire, puisque c'est le plaisir. Hein, on se déplaît pas, mais on a perdu le fil sexuel de la vie. Parce que d'un seul coup, la sexualité s'est rebranchée sur la reproduction et comme si le plaisir devenait antinomique.
Et superflu et...
Inutile, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance.
Et donc c'est un héritage culturel qui se remet en route à
notre insu. Un héritage culturel, absolument. Et alors moi, ce que je veux raconter, pourquoi c'est grave? Parce que si ça dérangeait personne, alors souvent l'un des conjoints n'est pas à la fête, et c'est quand même la cause de la majorité des ruptures. Et pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est important de comprendre que si l'on répète automatiquement le fait de retomber amoureux, amoureuse, et d'être heureux dans un nouveau compagnonnage, une relation de couple, on va répéter exactement la même chose sans savoir qu'on quitte son homme au lieu de quitter sa mère. Et ça, c'est tellement important.
Et quand vous dites on quitte son homme au lieu de quitter sa mère, alors comment peuvent faire les hommes et les femmes pour quitter leur mère? et pour se rendre disponible à l'amour de leur femme ou de leur homme?
Bah déjà, de le savoir, ça veut dire que si on a un peu donné, quand ça colle pas et quand on n'arrive pas à s'entendre et à se comprendre, il y a quelque chose qui cloche, alors que on sait que c'est pas l'amour qui manque. Parce que c'est ça qui est important. C'est pas l'amour qui manque. C'est pour ça que c'est si compliqué. Ça veut dire que les gens se séparent et s'aiment. Et c'est pour ça qu'ils savent rien expliquer à leurs enfants. Puisqu'ils comprennent rien à ce qui leur arrive fondamentalement. Je veux dire, le but de la manœuvre, c'est se mettre à voir le conjoint comme il est, d'aimer cet homme comme un homme et comme l'homme qu'il est, plutôt que de l'aimer comme sa mère. Ça veut dire de provoquer un changement d'espace-temps, je ne sais pas comment le dire. On passe à autre chose. C'est pour ça que des fois, dans les troubles de couple, des fois, c'est intéressant de conseiller au couple de sortir de la maison, de sortir de la famille, de se retrouver sans enfant, de pouvoir se parler de d'homme à femme et d'un seul coup de se voir. De voir l'autre, non plus comme le père de ses enfants ou la mère de ses enfants, mais comme l'homme qu'on aime, comme la femme qui nous plaît. Hein, je veux dire, c'est une histoire de confusion. Pour moi, toujours, d'y arriver, c'est du travail. C'est du travail personnel, c'est du travail avec un thérapeute, un travail de parole, un travail énergétique, un travail... Mais réellement, c'est du travail. On peut pas attendre magiquement d'aller mieux. Quand on attend magiquement d'aller mieux, on est toujours fidèle à l'incapacité de bouger. Et ben du coup, on est toujours fidèle à sa mère.
Et vous êtes vous-même la maman de deux garçons ?
Oui, de deux fils que j'ai envie de dire que je trouve magnifiques. en bonne mère juive, je veux dire, ce sont des hommes maintenant. Hein, ils ont chacun 35 et 40 ans.
Et comment vous et votre conjoint avez-vous appliqué à vos propres enfants ces préceptes ou cette conscience qu'il fallait leur transmettre une information, une éducation quant à leur sexualité? Alors, vous n'avez pas eu à éduquer des filles, mais comment l'avez-vous fait auprès de vos fils?
Ah ben alors moi, je me suis un peu débinée derrière mon cher époux en disant quand même pour les garçons, c'était bien qu'ils s'adressent à leur père. Alors comme ça, j'étais un peu plus... j'étais un peu tranquille. Je crois que j'aurais eu des difficultés, jeune femme, jeune devenant jeune maman, avec une fille, parce que je ne savais... rien de ce qui m'arrivait, donc j'aurais été incapable aussi de lui transmettre du mieux pour elle. Alors c'est vrai que Didier Dumas avait une grande simplicité pour parler de sexualité, et ben j'ai envie de dire à ses clients et à ses enfants, et puis nos enfants, ben c'est eux qui nous ont enseigné aussi. On était passionnés par le développement de l'enfant. Enfin, moi, de remarquer qu'un enfant comprend avant de savoir parler m'avait complètement émerveillée. J'étais en train de faire la cuisine et je disais à mon aîné, alors qu'il y avait, je sais pas, qu'il y avait à peine 2 ans ou 2 ans, oh, je disais, oh, si tu pouvais m'apporter une petite cuillère, qu'est-ce que ça m'arrangerait maintenant? Et le voilà qui m'amène une petite cuillère et qui ne savait pas parler. Donc, je veux dire, c'est magnifique. Et un matin, alors vous me demandez comment on a transmis la sexualité à nos enfants. Un matin, je me réveille et mon petit garçon, je me souviens plus quel âge il avait, et il arrive et il me dit, tu sais, moi j'ai des couilles et c'est papa qui me l'a dit. Voilà. Et il était très content de m'annoncer cette grande nouvelle. C'était une grande nouvelle.
Et dans votre livre « Femme désirée, femme désirante », vous évoquez des témoignages de vos patientes qui disent à quel point des ambiances asexuées dans leur famille quand elles étaient enfants étaient pour elles des souvenirs glaçants. Et donc vous encouragez les adultes, les parents, à témoigner qu'ils ont une vie sexuelle auprès de leurs enfants. Comment vous-même, dans votre couple, avez-vous témoigné de l'existence de cette vie sexuelle face à vos enfants?
Mais là encore, je remercie beaucoup mon conjoint, parce que c'est lui qui était, pour lui c'était une évidence qu'il n'y avait rien à cacher, puisqu'il était question d'être vivant. Donc c'est pas qu'il faut tellement dire, c'est qu'il faut être vivant. Hein? Oui, j'ai eu tellement de clientes qui me disent « mais jamais ils s'embrassaient, jamais il y avait de l'affection ». Et les enfants aiment bien voir les parents avoir du plaisir à vivre ensemble.
Et oui, mais c'est différent ça que la vie sexuelle proprement dite.
Alors oui, bah alors donc là on parle plus de la vie affective dans ce que vous racontez. Alors c'est vrai, mais c'est aussi déjà important.
Bien sûr. Hein,
je veux dire l'héritage, j'allais dire protestant. Austère est encore souvent là dans les familles. Hein, alors, il n'y a pas que les protestants, hein, bien sûr. Mais je veux dire, une ambiance où on peut témoigner qu'on est content d'être ensemble. Et puis, si on est content d'être ensemble, les adultes se retrouvent. Alors, ça dépend de l'âge des enfants. Moi, à un moment, j'ai inventé le fait de parler de sexualité aux enfants petits en disant que c'était des câlins de grands. C'est pas des câlins de petits. Et les câlins de grands, c'est le fait que les sexes se compénètrent, se rencontrent et se rencontrent dans le sexe de la maman, de la femme. Et c'est vrai qu'il y a une anecdote familiale qui fait que Didier dit aux enfants « Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Parce que maintenant, je veux passer un moment avec votre mère. » Et passer un moment avec votre mère, c'était aller dans notre chambre et effectivement se retrouver pour vivre notre sexualité. Alors, l'aîné dit... Eh ben, moi, je vais aller prendre un bain. Alors, voilà, ok. Alors, il dit, et alors, je vais prendre un grand bain ou un petit bain? Ok. Et puis, alors, le petit dit, eh ben, moi, je sais pas quoi faire. Voilà. Alors, il dit, on va. Et alors, là, il dit, on va prendre le temps que tu aies une idée qui t'intéresse, qui te fasse plaisir. Et donc, ça veut dire que quand on a cette simplicité, que je n'avais pas du tout, hein, on permet à chacun de prendre sa place. Voilà, je pense que c'est ça le plus important. Hein, quand une famille est vivante et que la sexualité fait partie de la famille, chacun arrive à prendre sa place.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Élise Gruau avec Daniel Flomenbaum. À voix nue, réalisation François Connac, prise de son Laurent Lucas, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.